Chapitre 5. Le pistolero marcha d'un air déterminé jusqu'au cercle de pierre, s'arrêtant le temps de boire un peu d'eau fraîche à la source. Il voyait son propre reflet dans une minuscule flaque cernée de mousse et de nénuphar, et il se regarda un moment, aussi fasciné que l'avait été Narcisse. Les effets sur son psychisme commençaient à se faire sentir, ralentissant le cours de sa réflexion tout en paraissant augmenter la connotation de chaque idée et la moindre donnée microsensorielle. Les choses commençaient à prendre un poids et une épaisseur invisibles jusqu'alors. Il s'immobilisa, puis se remit debout et jeta un regard à travers l'entrelac de branches. La lumière du soleil filtrait en un rayon oblique et doré où dansait la poussière. Et il contempla pendant un petit moment le jeu des particules et des minuscules paillettes en suspension, avant de reprendre son chemin. La drogue l'avait souvent gêné. Son égo était trop fort, ou peut-être trop entier, pour aimer être décortiqué et mis en veilleuse, devenir la cible d'émotions plus sensibles. Ses sensations le titillaient et souvent le rendaient fou, comme la moustache d'un chat qui l'aurait effleuré. Mais cette fois-ci, il se sentait plutôt paisible, ce qui était une très bonne chose. Il pénétra dans la clairière et alla droit dans le cercle. Il se planta là, libérant son esprit et le laissant vagabonder. Oui, ça montait, plus dur, plus vite. L'herbe hurlait sa couleur verte, la hurlait à son intention. Il lui semblait que s'il se baissait et se frottait les mains dedans, il se retrouverait avec de la peinture verte partout sur les doigts et les paumes. Il résista à l'impulsion malicieuse de tenter le coup. Mais de l'oracle ne monta nulle voix. Pas de frémissement sexuel, ni d'aucune sorte. Il se dirigea vers l'hôtel et se planta là, un moment. Toute pensée cohérente était devenue pratiquement impossible. Il avait une conscience aiguë de la présence de dents dans sa bouche. Elle lui paraissait toute bizarre, de minuscules tombes plantées dans la terre humide et rose. Le monde était baigné de trop de lumière. Il grimpa sur l'autel et s'allongea. Son esprit était en train de devenir une jungle pleine de plantes pensées étranges qu'il n'avait jamais vues ni même imaginées auparavant. Une jungle qui avait poussé autour d'une source de mescaline. Le ciel était d'eau. Et lui se tenait en suspension au-dessus. Cette pensée lui donna le vertige, un vertige qui lui parut lointain et secondaire. Un vers issu d'un poème ancien lui vint en mémoire. Pas une voix de l'enfance cette fois-ci, non. Sa mère craignait les drogues et la nécessité de les utiliser, tout comme elle craignait Corte et le besoin d'avoir recours à un homme qui battait les garçons. Le vers lui venait du peuple Mani, au nord du désert, un clan qui vivait toujours entouré de machines pour la plupart hors d'usage, et qui, lorsqu'elles marchaient, dévorait parfois les hommes. Les vers revenaient encore et encore, lui rappelant, de cette manière déconnectée typique de la montée de mescaline, de la neige dans un globe comme celui qu'il possédait enfant, mystique et à moitié fantastique. Hors de portée de tout homme, une goutte d'enfer, une touche d'étrangeté. Les arbres qui surplombaient l'autel recelaient des visages. Il les contempla avec une fascination abstraite. Ici, un dragon vert qui se contorsionnait, là, une nymphe des bois agitant ses bras de branches, ou encore un crâne vivant recouvert de bave gluante, des visages. Des figures. L'herbe de la clairière se mit soudain à claquer et à ployer. « Ça vient ! Ça vient !» De vagues frissons traversant sa chair. « Tout ce chemin parcouru, se dit-il. Hier, allongé dans l'herbe douce de l'aplomb avec Suzanne, et aujourd'hui, ça. » Elle se serra contre lui, avec son corps fait de vent, sa poitrine de jasmin odorant, de roses et de chèvrefeuilles. « Énonce ta prophétie, dit-il. Dis-moi ce que j'ai besoin de savoir. » Un goût de métal lui envahit la bouche. Un soupir. Un sanglot léger. Le pistolero sentait ses organes génitaux durs et comprimés. Au-dessus de lui, au-delà des visages dans les feuilles, il apercevait les montagnes, dures, brutales, pleines de dents. Contre lui, le corps remua, lutta. Il sentit ses poings se fermer. Elle avait convoqué une vision de Suzanne. C'était Suzanne au-dessus de lui, sa bien-aimée Suzanne Delgado, qui l'attendait dans une cabane de meneur de bétail abandonnée, les cheveux lâchés sur les épaules et dans le dos. Il pencha la tête, mais son visage à elle le suivit. Jasmin, rose, chèvrefeuille, vieux foin, le parfum de l'amour, aime-moi. Énonce ta prophétie, énonce la vérité. Je t'en prie, pleura l'oracle. Ne sois pas froid, il fait déjà si froid ici. Des mains effleurant sa chair, le manipulant, faisant jaillir le feu en lui, le tirant, le pressant. Une fente noire et parfumée, humide et chaude. Non. Sèche, froide, stérile. Aie pitié, pistolero. Oh, je t'en prie, j'implore tes faveurs, pitié. Aurais-tu pitié du garçon ? Quel garçon ? Je ne connais pas de garçon. Ce n'est pas d'un garçon dont j'ai besoin. Oh, je t'en prie. Jasmin, rose, chèvrefeuille, le foin séché avec ses effluves de trèfle estivale, l'huile tirée des urnes antiques, la chair qui s'embrase. Après, dit-il, si ce que tu me dis peut m'être utile. Maintenant, par pitié, maintenant. Il laissa son esprit s'enrouler vers elle, dans une négation totale de toute émotion. Le corps suspendu au-dessus du sien s'immobilisa et sembla hurler. Il y eut quelques instants de bataille acharnée et vicieuse entre ses tempes. Son cerveau était la corde grise et fibreuse qu'on tirait en tous sens. Pendant un moment, il n'y eut d'autre son que le souffle silencieux de sa respiration et la brise légère qui faisait bouger les visages verts dans les arbres. Clin d'œil, grimace, pas de chant d'oiseau. Elle relâcha son étreinte. De nouveau ce sanglot. Il fallait faire vite, ou bien elle le quitterait. Rester maintenant signifiait pour elle perdre de sa force, peut-être même périr. Il sentait déjà le souffle glacé se retirer pour déserter le cercle de pierre. Le vent faisait ondoyer l'herbe en une danse de supplice. « La prophétie, » répéta-t-il avant d'asséner une exigence plus sinistre encore, « la vérité !» Un sanglot, un soupir de lassitude. Il aurait presque pu lui accorder la pitié qu'elle quémandait, seulement il y avait Jake. S'il était arrivé une seconde plus tard la nuit précédente, il aurait retrouvé le petit mort ou fou. Dors alors. Non. Dors d'un demi-sommeil. Ce qu'elle demandait était dangereux, mais sans doute nécessaire. Le pistolero leva les yeux vers les visages dans les arbres. On y jouait une pièce pour son divertissement. Des mondes naissaient et mouraient devant lui. Des empires se construisaient sur les sables rayonnants où des machines éternelles peinaient dans une frénésie électronique abstraite. Des empires déclinaient, chutaient, renaissaient de leurs cendres. Des roues qui tournaient comme un liquide silencieux ralentissaient, se mettaient à grincer, à hurler, puis s'arrêtaient. Le sable venait obstruer les caniveaux d'inox de rues concentriques sous des cieux assombris, constellés d'étoiles comme des lits de joyaux glacés. Et sur tout ce décor soufflait le vent du changement, amenant les senteurs de cannelle de la fin d'octobre. Le pistolero observa le monde qui changeait, et il dormit d'un demi-sommeil. 3. 3. C'est le chiffre de ton destin. 3. Oui, le 3 est mystique. Le 3 est au cœur de ta quête. Plus tard viendra un autre chiffre. Le chiffre d'aujourd'hui est le 3. Quel 3? On ne voit qu'une partie des choses, et ainsi s'obscurcit le miroir de la prophétie. Dis-moi ce que tu peux. Le premier est jeune, les cheveux noirs. Il se tient au bord du gouffre, le gouffre du vol, du meurtre. Un démon l'a envahi. Le nom de ce démon est Héroïne. Quel genre de démon ça peut être? Je ne le connais pas, même dans les leçons de mon tuteur. On ne voit qu'une partie des choses, et ainsi s'obscurcit le miroir de la prophétie. Il y a d'autres mondes, Pistolero, et d'autres démons. Ces eaux-là sont profondes. Cherche les portes, cherche-les attentivement, cherche les roses et les portes dérobées. Le deuxième? Elle vient sur des roues. Je ne vois rien de plus. Le troisième? La mort. Mais pas pour toi. L'homme en noir, où est-il? Tout près. Bientôt tu converseras avec lui. De quoi parlerons-nous? De la tour. Et le garçon? Jake? Parle-moi du garçon. Ce garçon est ta porte vers l'homme en noir. L'homme en noir est ta porte vers les 3. Les 3 sont ta voie vers la tour sombre. Comment? Comment est-ce possible? Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? On ne voit qu'une partie des choses, et ainsi le miroir Dieu te maudisse. Aucun Dieu ne m'a maudite. Pas de condescendance avec moi, chose. Comment devrais-je t'appeler? Catin stellaire? Pute des vents? Il en est qui vivent de l'amour qui passe par ces lieux ancestraux, même en ces temps tristes et malfaisants. Il en est d'autres, Pistolero, qui vivent du sang. Parfois même, à ce que je vois, du sang des jeunes garçons. Ne peut-il être épargné? Si. Comment? C'est assez, Pistolero. Lève le camp et retourne au nord-ouest. Au nord-ouest, on a encore besoin d'hommes qui vivent par les balles. J'ai prêté serment sur les armes de mon père et sur la traîtrise de Martin. Martin n'est plus. L'homme en noir a dévoré son âme, tu le sais bien. J'ai juré. Alors, tu es damné. Fais de moi ce que tu veux, chienne.